France Inter.
France Inter, le 18-20. Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, un jour en République démocratique du Congo ce soir.
Cette agression, elle est pour des raisons économiques, pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au prix d'une épuration ethnique qui ne dit pas son nom.
Félix Tshisekedi, le président de RDC, qu'on réentendra tout au long de cet entretien un peu plus longuement. Bonsoir Thierry Vircoulon.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé, coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe. Pour l'IFRI, Claude Guibal est là aussi. Bonsoir Claude.
Bonsoir.
Reporter évidemment à la rédaction internationale chez nous. Vous avez passé plusieurs jours à RDC. Vous avez obtenu une interview de Félix Tshisekedi en même temps d'ailleurs que Le Monde et que le Wall Street Journal. On l'écoutera à intervalles réguliers et puis surtout il va falloir la décrypter. C'est aussi sur vous que je compte, Thierry Vircoulon. Est-ce qu'on peut d'abord nous aider tout simplement à planter le décor, nous remettre un peu la carte en tête, nous aider surtout à démêler le vrai du faux? Le contentieux, les raisons de la colère, en l'occurrence de Félix Tshisekedi qu'on va entendre, c'est une province qui est à l'est de la RDC. C'est le Nord Kivu qui est riche en minerais. La province, elle est aux prises avec une rébellion d'un groupe qui s'appelle M23, le mouvement du 23 mars, et qui s'étend même jusqu'aux portes de Goma. Le M23 est soutenu par le Rwanda, en hommes et en armes. Le Rwanda qui cherche quoi dans ce soutien à la rébellion, Thierry Vircoulon ?
Il y a qui cherche à occuper une partie très riche de cette province, en l'occurrence les territoires du Rutshuru et du Masisi, où il y a des minerais importants, il y a de l'or, mais il y a surtout ce qu'on appelle les 3T, c'est-à-dire le coltan, la cassitérite et la wolframite.
Et ça c'est bon pour nos téléphones portables, notamment pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est pour ça que c'est aussi précieux, parce que ça sert vraiment, ça sert vraiment à ça. Est-ce qu'on parle juste d'une rébellion tournée contre la RDC ? On parle de beaucoup plus que ça quand même, on parle de massacre, c'est en tout cas les mots des Nations Unies, on parle d'1,5 million de personnes qui ont été déplacées, on parle de choses qui sont extrêmement préoccupantes.
Oui, on est maintenant, je crois, à 7 millions de déplacés en RDC,
tout,
mais qui ne sont pas dus uniquement au conflit du M23, parce que la scène est beaucoup plus grande que ça. Il y a des groupes armés en Ituri, au Nord Kivu et au Sud Kivu, mais là, il y a une focalisation sur le M23 qui a ressurgi depuis 2022, mais quand on dit qu'il y a 7 millions de déplacés, on parle de ces trois provinces.
Et il paraît qu'il y a même une centaine de groupes armés dans un pays comme la RDC, c'est ça qui est aussi très très difficile à comprendre et à calculer. Hein.
Oui, alors, mais là encore, on parle que de trois provinces sur l'ensemble du pays, et celle qui est la plus citée actuellement, c'est évidemment le Nord Kivu, et plus particulièrement le sud du Nord Kivu, avec le M23, qui, comme vous le disiez, est en train d'enserrer Goma.
On dit, on entend, on va entendre d'ailleurs Félix Tshisekedi le dire très concrètement, pour lui le Rwanda cherche à piller les ressources de la RDC. Est-ce que c'est aussi simple que ça, aussi binaire que ça ?
Oui, c'est aussi simple que ça, puisque en fait, lorsqu'on regarde les ressources d'exportation des minerais du Rwanda depuis le début de l'attaque du M22, c'est-à-dire 2022, elles ne cessent d'augmenter. L'année dernière, le Rwanda a fait 1,1 milliard d'exports de minerais. Cette année, il a l'objectif d'en faire 1,5 milliard. Et
mais du minerai qui n'est pas le sien, donc en gros...
Voilà, ces résultats n'ont pas grand-chose à voir avec sa production.
Ouais, ouais. C'est-à-dire, au fond, l'extraction, qui la contrôle dans cette partie-là?
C'est justement le M23 dans la zone qu'il a pris, Masisi et Rutshuru, ce qui permet de faire passer les minerais de l'autre côté en toute impunité.
Claude Guibal, vous l'avez rencontré, donc Félix Tshisekedi, et je le disais, il faut préciser d'abord que c'est la RDC qui vous invite à venir, hein, c'est important de le dire, avec un message de la part de Félix Tshisekedi, c'est celui-ci, c'est le Rwanda pille et fait du nettoyage ethnique.
Voilà. Oui, vous avez raison Fabienne, c'est pas anodin, hein. Si c'est la semaine précisément où le Rwanda commémore les 30 ans du génocide des Tutsis du Rwanda que Félix Tshisekedi a choisi de parler, donc dans cette interview, on l'a dit, hein, réalisée aussi avec Le Monde et le Wall Street Journal, c'est une façon, hein, effectivement, pour la RDC, de contrer ces commémorations en attirant l'attention sur l'action du Rwanda sur le territoire congolais.
Cette agression, elle est pour des raisons économiques, pour piller les ressources de la République démocratique du Congo. Et ça se fait au prix d'une épuration ethnique qui ne dit pas son nom. Parce qu'à cause des massacres et des violences qu'exerce le Rwanda, des populations entières se déplacent. Et donc, quand vous voyez cet accord sur la transformation de matières critiques signé entre l'Union européenne et le Rwanda, alors que tout le monde sait que le sous-sol rwandais ne regorge d'aucune de ces matières, vous comprendrez qu'il y a quelque part le financement ou l'encouragement à la guerre, à l'agression que fait le Rwanda.
Oui, il faut préciser que cet accord dont parle Félix Tshisekedi, donc il a été signé en février donc entre l'Union européenne et le Rwanda, et il cherche à aider le Rwanda à développer son secteur minier, on vient d'en parler, et il porte essentiellement sur le tantale et le niobium, qui sont donc les extraits du coltan, et qui sont essentiels à la fabrication donc des smartphones, des ordinateurs, et c'est cet accord qui vraiment a déclenché la fureur de Kinshasa.
Et alors il le dit vraiment, il le dit même sans guillemets, c'est nous qu'il vise, les Européens, parce que les ressources, nous en avons besoin.
Oui, c'est ce qu'il dit. Il nous accuse de duplicité. Et pendant cet entretien, il a d'ailleurs fait le rapprochement avec la guerre en Ukraine, la Russie, en rappelant que ce conflit avait fait l'objet de centaines de sanctions, déjà. Alors que depuis 30 ans, le conflit au Congo, qui a déjà fait plusieurs millions de morts, eh bien, lui n'a généré aucune sanction. Et c'est ce qu'il réclame, Félix Tshisekedi. Il réclame des sanctions ou à minima des menaces de sanctions contre Paul Kagame, donc le président rwandais.
Je vais être très dur, c'est de la complicité. Dans les accusations qui sont proférées contre Kagame de piller les ressources de la RDC, Kagame l'a dit lui-même. Il a dit qu'il n'était pas seul dans les pillages du Congo. Lui, il se chargeait de les voler et les autres de les acheter et de les transformer. Les produits qu'ils volent sont ensuite transformés dans ces pays-là. Donc ces pays font du recel dans ces pays-là. Il n'y a aucune condamnation de ce qu'il fait.
Et ce qu'il dit, Félix Tshisekedi, c'est que là, il est question de deux poids, deux mesures, en fait.
Thierry Vercoulon, il y a du vrai dans cette déclaration. Oui, nous avons besoin des ressources minières de la RDC. Donc oui, il y a ce mot complicité, qui n'est vraiment pas un mot anodin. Est-ce que vous aussi, vous pouvez l'analyser comme ça ? Sommes-nous, au fond, complices de ce qui est en train de se passer dans cette province-là ?
Non, je pense que c'est, comme d'habitude, le narratif congolais qui est un narratif qui consiste à de bouc émissaire, toujours, et qui, malheureusement, n'est pas actualisé avec la structure du commerce des minerais. Parce qu'en fait, ça fait déjà longtemps que les 3T partent en Extrême-Orient, parce que l'essentiel des raffineurs sont en Chine. Et donc, quand on regarde les destinataires, les destinations des minerais rwandais qui sont exportés, c'est pour les 3T la Chine et la Thaïlande, essentiellement. Et pour l'or, qui représentait 500 millions quand même de dollars il y a quelques années, exportés par le Rwanda, c'est les Émirats Arabes Unis. Donc, les destinataires, les voilà. Les Européens, les Américains, c'est le marché final, mais pas seulement, puisque je crois qu'il y a beaucoup de Chinois qui utilisent des smartphones, d'après ce que je sais. Et donc, il faudrait quand même qu'il actualise son narratif par rapport à la structure du commerce international.
Et on se dit aussi, au fond, on parlait tout à l'heure des centaines de groupes qui existent aussi, de groupes armés, qu'il y a un certain intérêt à maintenir, à se maintenir dans ce chaos-là, non, de la part de l'ERDC, de la part de Félix Tshisekedi qu'on vient d'entendre.
Il est clair que le M23 n'est pas le seul groupe armé en RDC qui vit sur les minerais.
Il y a une chose que je voudrais ajouter, Monsieur Vercoulon, parce que ça nous amènera à la suite de cette interview. Est-ce que dans ce chaos-là, la RDC a la tentation d'ajouter ce qui est un épouvantail pour les Européens, un épouvantail pour les Français, c'est-à-dire la Russie qui serait là en juge de paix? Est-ce que c'est une vraie menace? Est-ce que c'est déjà une réalité sur le terrain en RDC? Qu'est-ce que ça dit quand il nous parle de Russie, Tshisekedi?
Je crois que c'était surtout pour faire un parallèle, en effet, avec l'Ukraine et le fait que là, les Européens ont réagi. Mais j'aurais tendance à dire que l'Ukraine, c'est évidemment une guerre fondamentale pour les Européens qui ont un intérêt direct, et non pas un intérêt direct dans la guerre dans les Grands Lacs. Donc c'est plutôt, c'est ça un peu le parallèle. Mais par contre, il est faux aussi de dire qu'il n'y a pas eu de sanctions, puisque on a vu que Washington, qui est quand même le principal allié du Rwanda, a pris un certain nombre de mesures de rétorsion contre le Rwanda. Et que a publiquement aussi reconnu qu'il y a un pillage là qui est indéniable.
Alors, à chacun sa narrative, effectivement, Thierry Vercoulon, comme vous le dites. Claude, la question russe, vous l'avez posée à Tshisekedi, on est très curieux de cette réponse.
Oui, parce qu'elle se pose, même au sein du pouvoir congolais qui pousse à un rapprochement avec la Russie.
D'abord, je voulais poser la question, est-ce que c'est son droit ou pas d'être présente sur le continent africain, la Russie? C'est son droit. Si elle respecte les lois de la RDC, il y aura des relations. D'ailleurs, il y en a déjà. Mais ça ne nous empêche pas d'être lucides. Ici, j'aimerais préciser que nous sommes parmi les rares nations africaines à avoir condamné l'agression de la Russie contre l'Ukraine. J'ai toujours dit que les Européens ou l'Europe, c'est le partenaire naturel de l'Afrique. D'abord par sa situation géographique et par la longue histoire qu'il y a eu entre les peuples d'Europe et d'Afrique. Et que malheureusement, l'Europe ne joue pas vraiment ce rôle-là pour le moment. et qui laisse la place à d'autres, je pense à la Chine, la Russie et même les États-Unis aussi, qui prennent plus de place en Afrique que les Européens.
Et puis il y a autre chose et qui m'a scotché, Claude, en écoutant votre interview. On reproche à la RDC, à Félix Tshisekedi, de laisser les milices d'autodéfense utiliser notamment les enfants et les enfants soldats. Écoutez sa réponse qui est quand même assez dingue.
Ce sont des gens qui ont vu, pour certains, leurs parents se faire violer devant leurs yeux, se faire massacrer, décapiter devant tout le monde. Mettez-vous à leur place. C'est pas eux qu'il faut juger. Il faut juger les agresseurs, ceux qui les poussent à entrer dans cet état de fonctionnement. Donc s'il vous plaît, arrêtez vos regards occidentaux qui commencent à agacer les Africains d'ailleurs, parce que vous avez toujours des approches que vous faites à partir de votre raisonnement sans vous mettre dans la peau des Africains.
Je suis curieuse de votre réaction à ce genre de propos, Thierry Vercoulon. Laissez-nous, vous ne nous comprenez pas de toute façon, nous les Européens. C'est ce qu'il nous dit entre les lignes, Tshisekedi.
Oui, enfin c'est un peu des propos de comptoir. La réalité, c'est que le pouvoir congolais continue à faire la même guerre qu'il faisait. Il a toujours la même stratégie guerrière, c'est-à-dire que comme son armée est sous-performante parce qu'elle est profondément corrompue, il recourt toujours aux milices, il recourt toujours à des mercenaires étrangers et il recourt toujours à des armées alliées africaines. Mmh. Et c'est la coalition qu'il a montée actuellement dans l'Est. Le problème, c'est que cette coalition, pour le moment, ne marche pas.
Ces propos précédents sur la Russie, est-ce que on a un peu le sentiment que ça sonne comme arrêtez-moi ou je fais un malheur, c'est une manière de nous parler sur ce ton-là?
Oui, bien sûr, c'est la surenchère habituelle et évidemment dans le contexte international actuel, on comprend pourquoi il fait cette surenchère, mais là aussi je pense que c'est un discours qui se trompe de destinataire, qui n'a pas compris comment évoluer le commerce des minerais international depuis 15 ans et qui a 15 ans de retard.
Et ben comme ça, la conclusion est bien nette. Thierry Vercoulon, merci beaucoup de votre passage chez nous. Claude Guibal, merci également pour cette interview et tous vos reportages qui sont à retrouver sur franceinter.fr. Merci mille fois.
Le 18-20, Fabienne Synthèse. Sur France Inter.
La suite, ce soir, ça se passe au Canada, dans la province d'Alberta précisément, qui se prépare à la saison des incendies. Et pour aller jusqu'à 19h, Céline Asselot sous les radars.
On part au Japon, où dans 500 ans, tout le monde pourrait avoir le même nom de famille. La faute à un article du Code civil de plus en plus contesté.
Le Monde à 18h50, c'est Franck Madvon. Bonsoir Franck.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Une frappe attribuée à Israël contre une installation diplomatique iranienne à Damas, en Syrie. Israël a cette fois franchi plusieurs lignes rouges.
Et Caroline Pays des 27, c'est Caroline Gillet. Salut Caroline.
Bonsoir. Laura Vérec surveille depuis des années les négociations autour du CETA et je l'ai accompagnée dans un séminaire où elle se réjouissait de voir enfin les académiques s'intéresser à la question qui fait polémique dans les accords de libre-échange. C'est longue cette phrase. Les tribunaux d'arbitrage.
Allez,
on va en parler.
Tout de suite, tout le monde, le tour de la planète continue. Il fait un détour par la reprise d'un titre presque centenaire créé en 1926 dans la comédie musicale Betsy, figurez-vous. Vous reconnaissez peut-être la voix de Sinatra à un moment, ou peut-être celle de Della Fitzgerald. Voici la version de Lana Del Rey, Blue Skies, sur France Inter et d'Un jour dans le monde. A tout de suite.
Blue sky, smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days all of the time. Nothing but blue skies all day long. Blue days all of the time. Nothing but blue skies all day long. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies. Thank you.
Nous sommes dans l'ouest du Canada ce soir, dans la province d'Alberta, qui se prépare à faire face à une nouvelle saison des feux. L'année dernière, on l'a tous en tête, l'Alberta, comme le reste du Canada d'ailleurs, a connu la pire saison d'incendie de son histoire. Et cette année, avec la sécheresse en cours, avec le phénomène El Niño, la crainte est que les incendies soient tout aussi intenses. Alors, l'Alberta anticipe, et le reste, c'est Justine Leblanc qui raconte.
Dans la caserne de la ville d'Edson, dans le nord-ouest de l'Alberta, les pompiers trient les lances d'incendie, les motopompes et même des tronçonneuses. Ils rangent tout ce matériel dans un pick-up 4x4 adapté pour rouler dans la forêt. Une grosse étape de leur préparation pour l'été. Scott Ryder est le chef d'équipe des pompiers héliportés. Il en est à sa 7e saison ici à Edson.
Vous voyez tous ces sacs jaunes? Ce sont tous nos tuyaux. On transporte aussi nos cordes, notre pompe. Tout ce dont on a besoin pour être autonome sur la ligne de feu pendant au moins 24 heures. Dans notre équipage, notre principal moyen de transport est l'hélicoptère. On doit donc faire preuve de discernement en ce qui concerne le matériel. On n'emporte que l'essentiel.
C'est le premier jour où l'équipe de pompiers se retrouve.
Nous avons donc embauché une centaine de personnes supplémentaires cette année. Nous allons donc être très occupés à les former, à leur inculquer les devoirs de base d'un pompier de forêt. La navigation aérienne, la pose de tuyaux, la recherche de sources d'eau, le dépannage de l'équipement. C'est une sorte de machine humaine. Chaque personne doit faire sa part pour que l'ensemble de l'opération fonctionne.
Dès le 15 avril, ils rejoindront leur caserne délocalisée dans la forêt pour y passer l'été. Plusieurs équipes de soldats du feu sont formées. Cette année, il y en a deux supplémentaires à Edson. Après le traumatisme de 2023, 2 200 000 hectares perdus en Alberta. La province met plus de moyens dans la lutte contre les incendies. Dans l'équipe de pompiers héliportés de Scott, ils sont 4, dont Lance Underwood et son frère jumeau.
C'est un mélange d'aventure, de camaraderie. La dynamique de l'équipe est un élément tellement important. Quand vous êtes fatigué et que personne ne se plaint, que vous travaillez tous dur et qu'on s'en sort, c'est comme ça que naît ce sentiment de famille si particulier que l'on éprouve avec ses collègues. C'est aussi un énorme sentiment d'utilité.
Le matériel des pompiers pour accomplir leur mission ne se résume pas à la lance d'incendie et à la pompe. Ils peuvent aussi compter sur des nouvelles technologies.
Nous avons deux nouveaux hélicoptères de vision nocturne. En général, l'intensité des flammes diminue pendant la nuit parce que les températures sont plus basses et l'humidité plus élevée. Donc ça va nous permettre de maintenir le personnel sur la ligne et de lutter contre les incendies même la nuit.
Si les pompiers se préparent autant, c'est aussi parce que la ville d'Edson n'est pas passée loin de la catastrophe l'an dernier. En juin, le feu a brûlé à 2 kilomètres du centre, les habitants évacués deux fois.
Mon nom, c'est Caroline Charbonneau, puis je suis l'agent d'information pour la zone forestière de Edson Forest Area.
Fait que là, ça ici, c'est un petit parc de ville. Le feu a sauté la rivière ici. Tu peux voir comme le feu a brûlé. Fait que souvent, comme qu'est-ce qu'on va faire quand on essaie de manager comme un feu, c'est qu'on va bâtir comme des fire guards. Ça veut juste dire qu'on va enlever la végétation qui peut brûler en avant du feu. Le soir que le feu a parti à grande vitesse, il y avait des vents de au-dessus de 100 km à l'heure. Tu peux avoir des intercelles qui peuvent voler 5-10 km en avant du feu. Alors, c'est ça que ce qu'il a fait ici, c'est que le feu a sauté le fire guard puis a rentré plus proche de la ville.
Préparer la saison, c'est aussi préparer les habitants. Avec le programme Fire Smart, Intellifeu en québécois, explique Caroline Charbonneau.
On encourage les gens d'avoir aucun combustible entre 0 et 2 mètres de leur maison, comme un arbre ou du bois pour ton fourneau.
Vous craignez une plus grosse saison cette année que l'année dernière?
Alors, qu'est-ce qu'on sait, c'est que les conditions tout de suite sont plus sèches. Mais ça peut changer dans 2 jours, comme qu'on a vu en juin. On n'a juste pas vraiment nos plans. Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver? On est juste préparé.
En attendant, les pompiers démarrent cette semaine leur entraînement physique.
Nous sommes préparés, prêts à nous remettre au travail, mais on espère qu'il n'y en aura pas trop.
Justine Leblanc pour le reportage au Canada. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Céline Aslo ce soir.
und natürlich 84 Millionen Bundestrainer.
D'abord en Allemagne, Céline, que nous sommes, les footballeurs de la Mannschaft vont changer de maillot pour l'Euro 2024.
Oui, pourtant elle était toute fière, hein, la fédération allemande, de présenter dans le clip que vous venez d'entendre la nouvelle garde-robe de ses joueurs pour son Euro de football. C'était il y a 2 semaines, sauf que depuis, les polémiques s'enchaînent. D'abord sur la couleur de l'un de ses maillots, du rose, ce qui avait provoqué un édito furieux du magazine Bild, pour qui le rose n'est pas une couleur pour le football, voilà, sachez-le. Ensuite, sur la police de caractère, et là c'est un historien allemand qui s'est ému sur le réseau social X de la ressemblance entre le chiffre 4 et la lettre S sur l'insigne nazi des SS pendant la Seconde Guerre mondiale. La fédération d'y prendre ses informations très au sérieux assure que le design va être changé. En attendant, Adidas stoppe la vente des maillots sur son site. Une fin un petit peu triste, hein, pour l'équipementier historique de la sélection allemande qui va être remplacé par Nike à partir de 2027.
Et nous sommes maintenant en Namibie où les rhinocéros sont de plus en plus menacés.
Oui, avec le braconnage en très forte hausse, c'est ce que dit le porte-parole du ministère de l'Environnement que vous venez d'entendre. 28 rhinocéros en ont été victimes dans le pays depuis le début du mois de janvier, dont 19 dans le parc national d'Etosha, une réserve animalière pourtant protégée et réputée. Et puis le phénomène touche aussi l'Afrique du Sud où 500 rhinocéros ont été tués l'année dernière par des braconniers qui revendent les cornes au prix de l'or. Alors au fil des années, les autorités ont pourtant pris des mesures. Les cornes des rhinos sont régulièrement coupées pour ne pas tenter les braconniers. Et puis les employés des parcs nationaux sont désormais passés au détecteur de mensonges avant d'être embauchés pour s'assurer qu'ils ne sont ni complices ni corrompus. Visiblement, ça ne suffit pas. La Namibie assure qu'une évaluation va être menée dans ses réserves pour trouver de nouveaux moyens d'action.
Et puis nous voici au Japon, où dans 500 ans, tout le monde portera le même nom de famille.
Oui, en l'an 2531, très précisément, tous les Japonais s'appelleront Sato, qui est déjà le nom de famille le plus courant dans l'archipel. C'est en tout cas le résultat d'une étude menée par des chercheurs de l'université de Tohoku. Une étude qui a suscité beaucoup d'étonnement. Certains sur les réseaux sociaux se demandant s'il ne s'agissait pas d'un poisson d'avril. Alors c'est vrai que les auteurs de cette étude reconnaissent eux-mêmes que leurs projections sont basées sur des hypothèses, qu'on n'est pas tout à fait certain, que ça arrivera pile en 2531. Mais pour eux, ce n'est pas l'essentiel. Leur démarche est plus politique que scientifique. Ils veulent attirer l'attention sur les conséquences de l'actuel code civil. Car au Japon, depuis environ un siècle et demi, quand 2 personnes se marient, elles doivent obligatoirement porter le même nom de famille. Et devinez quoi, dans 95% des cas, ce sont les femmes, bien sûr, qui changent de nom pour prendre celui de leur mari. Cette loi est unique en son genre dans le monde et elle est de plus en plus contestée au sein de la population, même si elle est soutenue par le parti au pouvoir, le Parti libéral-démocrate, cofondé par un certain Monsieur Sato, bien sûr. Voilà, peut-être pas un hasard.
On connaît compte si tout le monde s'appelait synthèse.
Ce serait pas pratique.
Ce serait la fin du monde. Céline Asso, merci. Vous partez avec José Feliciano, Light My Fire, une reprise bien son de la chanson des Doors.
If I was to say to you, yeah, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time for hesitation is through. There's no time to wallow in the mire. Darling, we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
José Feliciano et sa reprise du Light My Fire des Doors sur France Inter. Le Monde à 18h49, c'est Franck Madvon.
Fabienne Sintès. Le 18-20.
Franck, l'Iran promet de riposter après l'attaque attribuée à Israël qui a visé hier son consulat à Damas. En Syrie, ce soir, vous nous dites pourquoi cette frappe a franchi plusieurs lignes rouges.
Oui, c'est peut-être l'événement le plus important au Moyen-Orient depuis les attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. Israël parle d'une cible militaire, mais c'est bien un site diplomatique iranien qui a été frappé hier. En droit international, ça s'apparente à un raid visant le territoire iranien. Il ne fait aucun doute qu'Israël est responsable de l'attaque, même s'il n'y a pas de déclaration officielle. Des sources israéliennes ont reconnu qu'Israël avait mené cette frappe auprès de plusieurs médias. Le bilan est lourd, au moins 13 morts, dont deux commandants de la force Al-Quds, l'élite des gardiens de la révolution à l'étranger. Le plus haut gradé en Syrie et au Liban a été tué, le général Zaidi. Le bâtiment touché est mitoyen de l'ambassade d'Iran. C'est, d'après Téhéran, sa section consulaire située à Madzeh, le quartier des ambassades à Damas. D'après l'Iran, des F-35 israéliens ont tiré 6 missiles qui ont complètement détruit l'immeuble.
Et tous les responsables iraniens, Franck, ont réagi.
Oui, condamnation unanime et promesse de représailles. Israël sera puni, déclare le guide Ali Khamenei. Ce crime ne restera pas sans réponse, assure le président Raisi. En Iran, des manifestants ultra-conservateurs se sont rassemblés pour demander vengeance. Les Iraniens disent avoir transmis un message dont on ne connaît pas la teneur aux États-Unis, l'allié d'Israël, via l'ambassade de Suisse, qui joue le rôle d'intermédiaire entre les deux ennemis. Washington dément toute implication dans la frappe. De leur côté, la Russie et la Chine, alliés de l'Iran, ont condamné l'attaque. Et le sujet sera débattu ce soir au Conseil de sécurité de l'ONU.
Le niveau de tension, Franck, en tout cas, a rarement été aussi élevé entre l'Iran et Israël.
Oui, Israël n'était jamais allé aussi loin jusqu'ici. Fin décembre, un commandant iranien de la force Al-Quds avait été tué dans le sud de Damas, mais ce n'était pas dans une enceinte diplomatique. Et ces dernières semaines, l'Iran, de son côté, a apporté son soutien au Hamas sans pour autant intervenir directement dans le conflit avec Israël. Téhéran a riposté par l'intermédiaire de ses soutiens les différents groupes de son axe dit de la résistance, le Hezbollah au Liban, les Houthis du Yémen, les brigades pro-iraniennes en Irak et en Syrie. Récemment, l'intensité de leurs attaques a même légèrement baissé. Mais dans la nuit de dimanche à lundi, un drone iranien a visé un navire israélien à Eilat, dans le sud d'Israël, ce qui pourrait expliquer l'attaque israélienne à Damas.
Et alors l'Iran va-t-il riposter ?
C'est la grande question. L'Iran a manifesté son soutien aux Palestiniens de Gaza depuis le 7 octobre, mais jusqu'ici il a évité de franchir la ligne rouge qui le ferait basculer dans la guerre. Il a contenu le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah au Liban. Il a demandé aux milices chiites de stopper leurs frappes contre les intérêts américains dans la région, après la mort de 3 soldats américains en Jordanie en janvier. Mais cette fois, la crédibilité de Téhéran est en jeu. Comment ne pas réagir après cette provocation israélienne ? Comme souvent, l'Iran pourrait attendre son heure, ne pas réagir à chaud et éviter le piège que semble lui tendre Israël. Une riposte précipitée, hasardeuse, qui déclencherait un conflit à grande échelle.
Franck Madvon et Le Monde à 18h50. Merci beaucoup. Le mardi, Caroline Gillet ouvre les portes de l'Europe. Caroline, au pays des 27 qui frappe toujours 3 fois.
France Inter. Le 18-20.
Blam! Alors aujourd'hui, eh, Caroline, ouais, enfin, vous ouvrez les portes. On est au mois d'avril, youhou! Vous ouvrez les portes de l'école d'économie de Paris, Caroline, qui se trouve sur le même campus que Normale Sup dans le sud de Paris. Et je vous pose la question, mais quel est donc le rapport
mais
avec l'Union européenne?
Et voilà, et bien, s'y tenait cette semaine un colloque pour faire le point sur l'impact de l'élite financière et commerciale sur les politiques environnementales, notamment dans l'EU. Laura Verrec est venue exprès de Bruxelles pour y assister. Elle travaille pour l'Observatoire des multinationales. Et elle veut notamment entendre une chercheuse, Ariane Lambert-Mogilianski, parler du CETA, l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada, rejeté par le Sénat ici il y a 2 semaines. Mais Laura s'est trompée d'adresse et ses 30 minutes de retard ont coïncidé avec le passage du réparateur de distributeur. J'ai reçu un Kinder Bueno et un café bu avec la sensation d'avoir déjà gagné ma journée aux frais des multinationales. Quand Laura me rejoint, je lui demande évidemment pourquoi, comme elle me le dit, elle se passionne pour les traités de libre-échange.
Je suis tombée, mais je ne sais plus pourquoi, sur un rapport qui avait été écrit en anglais par une ONG qui s'appelle CEO. Et du coup, j'ai appris ce que c'était qu'un tribunal d'arbitrage. Et ça m'a totalement scandalisée. Et donc, j'ai commencé à me joindre à toutes les actions qui étaient contre ces traités. Et finalement, cette ONG cherchait quelqu'un pour son plaidoyer contre les traités de commerce. Et j'ai postulé, et comme j'avais lu tous les rapports, ils m'ont pris.
On a cherché une salle, sans succès, on a fini par trouver un endroit où s'asseoir, au niveau d'un courant d'air, oui, au premier étage.
Vous s'asseoir sur les marches ?
Ouais, ça ira.
Ouais.
Est-ce que vous pourriez réexpliquer ce que c'est un tribunal d'arbitrage ?
En fait, si on approuve le CETA, on peut donner le droit à un investisseur canadien de mettre en justice l'État français. Il y a eu un exemple notamment où il y a une société minière canadienne qui a menacé la France parce que la France voulait arrêter l'extraction d'énergie fossile sur son sol d'ici 2025. C'était la loi Hulot. Donc ça n'était qu'une menace pour le moment. Donc ça n'est pas devenu un arbitrage. Si c'était devenu un arbitrage, si l'investisseur gagne, il obtient non seulement le prix de l'investissement qu'il a mis pour démarrer sa mine, par exemple, mais il obtient surtout tous les profits qu'il aurait aimé avoir avec cette mine. Et donc finalement, c'est le contribuable français qui finit par payer tout ce que l'investisseur n'a pas gagné parce que la France a décidé de respecter son environnement et de protéger le climat. Et puis, il y avait cette idée aussi que toute personne qui investit ou habite en France, s'ils ont un problème en France, ils vont dans un tribunal français. Et je me suis toujours demandé pourquoi un investisseur, parce qu'il serait canadien, il investit en France, et si une décision du gouvernement français ne lui plaît pas, il aurait le choix entre les tribunaux qu'il peut utiliser. Donc là, il pourrait aller dans une justice privée et décider qu'en fait, ce sont des arbitres payés à l'heure qui vont décider si la France a bien fait de protéger son environnement.
Les premières discussions autour du CETA, c'était en 2009. Laura a commencé à y travailler en 2014 et en 2016, il y a eu les fameuses négociations avec le ministre-président wallon Paul Magnette. À l'époque, les négociations duraient depuis 5 ans déjà et on attendait Trudeau, le premier ministre canadien, pour venir signer l'accord.
Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est, alors c'est très belge, mais pour que le ministre des Affaires étrangères belge puisse signer le CETA, il avait besoin de l'accord de toutes les régions de la Belgique. Et le président de la région wallonne, M. Magnette, s'y oppose. Et donc, la Belgique va se retrouver au Conseil parmi tous les États membres à être la seule qui s'abstient sur le traité. Et donc, comme elle s'abstient, on ne peut pas faire venir M. Trudeau pour faire signer le CETA. Et c'était assez incroyable. Parce que moi, j'avais une source au sein du Conseil qui me disait à quel moment Trudeau allait prendre l'avion. Et c'était constamment retardé, simplement par Magnette. Et en fait, en lisant le livre de Magnette après, j'ai compris que Magnette était parti se balader en forêt pendant 2 jours, qu'il avait mis son téléphone sous silence parce qu'il trouvait qu'il avait trop de pression de la Commission européenne. J'imaginais Magnette dans sa forêt, pendant que Trudeau attendait de savoir quand est-ce qu'il pourrait prendre l'avion pour Bruxelles.
Bon, peut-être on en parle là, et je veux pas vous faire rater, je crois qu'on est déjà en retard pour la conférence, on y va. Vous pourrez me chuchoter un petit peu ce qui se dit, si je comprends
okay.
Rien.
Ça va.
Je m'assieds près de vous.
On est dans une grande salle, il y a une dame blonde avec un pull turquoise devant un PowerPoint. Et dans la salle, il y a quand même une vingtaine, trentaine de personnes derrière leurs ordinateurs.
L'État perd toujours.
Mais ça, justement, c'est hyper intéressant. Souvent, les personnes qui sont pro-arbitrage nous disent « mais il y a des États qui gagnent ». Alors, par exemple, Philip Morris a mis en justice l'Australie quand l'Australie a fait passer des lois anti-tabac. Et oui, 7-8 ans après, l'Australie a gagné. Mais l'Australie a quand même payé des frais d'arbitrage qui se chiffrent en millions de dollars, qui n'ont jamais été remboursés. Et surtout, ce cas est connu parce que Philip Morris, à travers cet arbitrage contre l'Australie, va réussir à ralentir les lois anti-tabac dans toute la région.
Elle vient d'afficher une équation impressionnante.
Elle fait des trucs hyper mathématiques, hein, je comprends rien. C'est ce que je te disais, c'est la beauté de la recherche. Elle a eu le temps d'imaginer des super algorithmes. Nous, on regardait juste les cas. Mais je pense que ce qui est plutôt rassurant ici, c'est de voir... voilà, d'autres personnes qui le disent à ma place. Et ça, en fait, il y a souvent plusieurs temps. Il y a le temps de l'action, de l'actualité, dans celui dans lequel on était. Et aujourd'hui, le temps que prennent les universitaires à analyser et de se dire que finalement, on n'avait pas tort, et ça fait plaisir. Et en plus, c'est une très belle histoire, le CETA, parce que c'est une histoire d'engagement qui a un impact politique. C'est un traité qui était vraiment connu de personne, et puis qui, d'un seul coup, a pris la une des médias. Donc je pense que c'est un beau signe que l'engagement peut avoir des conséquences et que l'engagement peut aussi amener à un vrai débat public. Donc c'est chouette.
Merci beaucoup à Laura. On la retrouve la semaine prochaine. Elle organise un lobby tour à Bruxelles qu'on va aller suivre, évidemment.
Un lobby tour. Lobby, please, lobby. Caroline, vous reviendrez donc mardi prochain. Merci beaucoup. Le 18-20, ça continue avec le journal de 19h et Hélène Philly qui vient de s'installer. C'est très bien fait, cette émission. Juste après, il y a le téléphone sonne. Bonsoir, Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Et ce soir, après l'Allemagne, la légalisation du cannabis en France. Est-ce que c'est pour bientôt ou pas du tout?
Alors, pour le ministère français de l'Intérieur, la réponse est claire. Les Allemands sont des ovnis. C'est l'exemple à ne surtout pas suivre. Alors, les auditeurs sont là. Hein. Cyril, je trouve ça triste qu'un pays comme le nôtre n'ait pas pris les devants sur cette question. Christophe de Marseille sur WhatsApp. Depuis 40 ans, j'entends parler de répression et finalement, la France est le plus gros consommateur de cannabis en Europe. Pourquoi ne pas être simplement pragmatique et essayer autre chose? Florestan, bientôt 39 ans, j'ai commencé à fumer à 15 piges, écrit-il. Il y a 3-4 ans, je suis passé au CBD. Je pense que c'est une alternative efficace. Jacques, de nombreux quartiers en France vivent de la drogue. En légalisant ce marché, on risque d'avoir des situations de pauvreté qui peuvent se multiplier. Enfin, Julien, il y aurait tellement de choses bénéfiques pour les agriculteurs, pour l'État, pour les tribunaux, pour les prisons, pour le voisinage. Des points de deal et comme d'habitude, on se plante sur le traitement du problème.
Voilà, ben vous êtes bien partis. 01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous et c'est le même chemin en passant par WhatsApp. À tout de suite.